Alors, avant tout, je vais quand même vous parler un petit peu de Liberté Zéro, puisque c'est une association qui est toute jeune et qui a pour but de promouvoir l'accessibilité dans les logiciels libres. Puisque malheureusement, on part aujourd'hui d'un constat, c'est qu'on a très peu d'environnements qui soient vraiment satisfaisants pour tous. Et il reste quand même important et même obligatoire aujourd'hui de faire en sorte que l'ordinateur puisse être accessible à tous. Donc la conférence aujourd'hui sera comment créer un blog avec un système qui s'appelle Mezzanine, de manière à ne pas perdre un public pour des raisons finalement qu'on aurait pu éviter. Donc cette conférence va se séparer en deux. Donc à peu près 20 minutes chacun, enfin chacune des parties. Tout d'abord, je vais parler de Mezzanine, c'est vrai, c'est-à-dire cet outil-là. Et après, ben, l'accessibilité et surtout comment ne pas rompre finalement l'accessibilité de Mezzanine. Donc Mezzanine, tout d'abord, c'est un système de blog. Il y en a d'autres, les plus connus, enfin le plus connu étant WordPress. Mais Mezzanine se veut beaucoup plus simple. Et c'est quelque chose qui est écrit en Python, donc en langage de programmation, et qui utilise un framework, donc un environnement de développement qui s'appelle Django. Et c'est un environnement qui se veut personnalisable au maximum. C'est-à-dire qu'on est là dans le cadre d'un outil qui s'adresse soit à des vrais débutants qui veulent finalement le tout prêt, mais avec les fonctionnalités basiques, ou à plutôt des experts qui vont, eux, ben mettre les mains dans le code et qui vont adapter ce système-là pour faire leur site à eux, le comportement qu'ils veulent et pouvoir adapter au maximum. C'est également un projet qui est libre et sous licence BSD. Donc l'installation, mais comme tout projet Python, on va utiliser pip. Pour installer. Donc pip, c'est un petit outil de paquet. En fait, dans le système, on a tendance à connaître les points deb qu'on va utiliser avec Debian et apt. Côté Red Hat, ça sera les RPM. Et ben, on a aussi des petits outils comme ça en développement. Pip, ça sera quelque chose de local qui n'interagira pas avec le système. Et on peut l'associer avec des environnements virtuels de développement, donc avec Python Virtual Env. Et donc, on va tout simplement faire pip install mezzanine. Et ça va pour nous télécharger mezzanine et l'installer dans l'environnement de développement quand on est dans un virtual env. Ou alors, il ne faudra pas oublier de mettre la petite option pour dire que c'est dans l'environnement utilisateur qu'on veut l'installer. Ensuite, ben, on va se mettre dans le dossier où on veut le mettre. Et on va lancer une commande qui est apparue une fois qu'on a installé mezzanine. Mezzanine project. Et on va donner le nom de projet. Et ça va nous faire une structure complète de projet Mezzanine. Du coup, on va rentrer dans cette structure-là. Et là, on a déjà un embryon de site qui est là et que l'on va pouvoir modifier. La première des choses à faire, si on est en mode développement, ben on va lancer un script qui s'appelle manage.py. Et manage.py en Django, c'est vraiment le lanceur de tous les différents scripts. Et là, ce qu'on va lancer, c'est SyncDB, c'est la création de la base de données. Et là, il va nous demander le nom d'utilisateur de l'administrateur, le mot de passe, et ainsi de suite. Ensuite, on va faire les migrations. C'est vrai que Mezzanine, malheureusement, il y a pas mal de choses qui sont en ligne de commande. Ça va se faire tout seul. Et ensuite, on va pouvoir lancer le serveur avec la commande run server. Et là, on est sur un environnement de développement. Donc après, c'est vrai que malheureusement pour ça, au niveau hébergement, on va être un peu limité. Soit on a son propre serveur, soit il faudra trouver un hébergeur qui soit compatible avec du Django. Il y en a quelques-uns. Alors au niveau de l'utilisation de Mezzanine, mais je vais vous montrer ça plus en détail. Une fois que Firefox sera lancé. Oui, donc là, je me mets dans mon environnement de développement et j'ai quelques scripts automatiques qui font que quand je vais dans ce dossier-là, j'ai activé l'environnement et du coup, je peux revenir dans mon dossier de... dans le dossier du projet. Et là, on va se retrouver finalement dans une page qui est un peu classique pour un blog. Par défaut, la page d'accueil de Mezzanine, ça va être la page de, enfin, ça va être la liste des articles. Il faut savoir que sous Mezzanine, on peut personnaliser cette page d'accueil-là. C'est un peu compliqué. On en reparlera lors de la personnalisation. On va avoir du coup une interface d'administration en rajoutant admin à la fin. Et c'était pas ce mot de passe là. Alors aussi, il y a une petite spécificité en Django. Django est donc un framework et un outil qui est donc utilisé par Mezzanine et qui va avoir une génération automatique de l'interface d'administration. Et Mezzanine nous a quand même relooké cette interface d'admin, parce qu'une interface d'admin Django, c'est beaucoup plus moche que ça. Mais toutes les pages qu'on a là, finalement, c'est des choses qui vont être générées automatiquement en fonction de ce qu'on a dans la base de données. Et surtout, dans Mezzanine, on va avoir quelques options qu'on va pouvoir mettre sur le site. Alors, il y a pas mal de petites options. Ce qui est assez intéressant dans Mezzanine, c'est qu'on a une intégration des réseaux sociaux. Alors, l'intégration des réseaux sociaux, on a la lecture de Twitter. Donc, on peut mettre sur le côté, et par défaut, c'est ce qu'on a vu sur la page d'accueil, on va juste lire un compte Twitter et rajouter les derniers éléments, les événements qui sont apparus. Et également, Mezzanine va avoir sur chaque article, donc je vais me remettre sur un autre onglet. Mais bon, par contre, si j'ai pas mis d'article, ça va être un peu compliqué. Voilà, bon, du coup, on va voir la création d'un article. On est sur une interface comme avec un autre système de blog où on va avoir notre petit éditeur en WYSIWYG. Donc là, c'est la partie qui est peut-être un peu la moins accessible de tout Mezzanine. Mais on peut de toute façon revenir sur une interface sans WYSIWYG. Ça, c'est vraiment la partie admin. Mais après, sur la partie lecture, on aura plus de problèmes. Voilà. Et donc là, on va avoir du coup notre premier article. C'est quelque chose qu'on peut commenter. Et là, on peut du coup imposer une connexion ou faire le commentaire libre. Et surtout, on a aussi les petits outils pour pouvoir partager sur Facebook et Twitter. Alors là-dessus, on va parler un petit peu de vie privée aussi, parce que sur Internet, il y a énormément de sites. On va mettre des boutons j'aime, on va mettre des boutons Twitter. Et ces boutons, ils sont souvent connectés au réseau social. Et du coup, le réseau social sait qu'on a parcouru cette page web parce que le bouton est automatiquement connecté. Sous Mezzanine, les développeurs ont considéré que notre vie privée est importante. Donc en fait, ce ne sont pas les boutons Facebook et Twitter. Ce sont juste de simples liens qui sont déguisés en boutons. Et quand on va cliquer dessus, on va arriver sur le réseau social pour faire le promouvoir l'article. Mais au final, il n'y a pas de bouton j'aime, il n'y a pas de bouton Twitter, il n'y a pas de bouton plus un. Et donc, on garde quand même la vie privée de l'internaute. Et du coup, on n'a plus ces problèmes de vie privée. Après, comme la quasiment totalité des systèmes de blog, on a du coup sur le côté les posts récents, les archives où on va être trié par mois, et on peut bien sûr avoir plusieurs auteurs pour les articles. Et c'est vrai que Mezzanine va s'arrêter là. On va créer des petites pages statiques, on a une option pour créer des pages. On a la création des articles de blog, on peut commenter. Et même en matière de plugin, il n'y a quasiment rien. C'est vraiment un système simple. Par contre, comme c'est du Django, on va pouvoir utiliser toutes les applications Django. Elles sont fonctionnelles dans Mezzanine. Donc si par exemple, je veux mettre un forum en plus de mon blog, rien ne m'empêche de prendre un Django bébé et de dire dans les applications installées, je rajoute Django bébé. Et du coup, on va avoir les liens qui vont se faire. Donc, évidemment, sur l'utilisation, je vais m'arrêter un petit peu là, parce que là, on va partir sur tout ce qui est personnalisation. Alors, je n'ai pas parlé de déploiement tout à l'heure, mais en fait, on a déjà une configuration qui se fait dans un fichier qui s'appelle settings.py, qui est un fichier Python. Et dans ce fichier Python, on va pouvoir configurer plein de choses, dont la base de données. Donc la commande qu'on a lancée, run server tout à l'heure, c'est quelque chose qui est totalement dédié au test. Il ne faut jamais l'utiliser sur un serveur en production. Donc ce que je vous disais, il est possible de configurer la base de données. Par défaut, on est sur SQLite parce qu'on est sur un environnement de test. Django supporte MySQL et supporte PostgreSQL. À l'intérieur dans le code, dans Django, on a une représentation de la base de données qui fait qu'on est totalement indépendant du moteur de base de données. Et après, sur une production, il faudra combiner avec un serveur web et un logiciel pour connecter le serveur web à Mezzanine. Donc du coup, ça sera du WSGI, enfin, ou du plugin Apache. Pour pouvoir changer un thème, dans Mezzanine, un thème finalement, ce n'est qu'une app Django, c'est une application et ce n'est rien d'autre. Et donc du coup, on va installer cette application dans un paramètre. Alors je vais vous ouvrir le settings.py, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, donc là on a ce fameux paramètre, installed apps, et j'ai du coup mis mon thème ici, que j'ai créé auparavant. Et comme ce thème est tout en haut de la liste, dès que je vais avoir un fichier qui est dans le thème, c'est lui qui sera prioritaire par rapport aux autres. La base de données, elle est configurée un peu plus bas, si j'ai bon souvenir, non. Voilà, et c'est aussi ici qu'on va pouvoir configurer la base de données. Donc on peut très bien mettre une base de données Oracle si on a envie et qu'on veut du propriétaire. Donc on est quand même assez libre au niveau de l'hébergement sur ce point-là. Mais il faut un hébergeur qui accepte Python. Alors du coup, ce qui va se passer aussi, c'est que dès lors qu'on va vouloir faire un thème, on va surcharger des fichiers. C'est-à-dire qu'on va avoir un fichier CSS. Le fichier CSS de base ne nous convient pas. Dans notre thème, on va mettre un fichier CSS qui porte le même nom. Et ce fichier CSS va remplacer automatiquement le fichier CSS qui a été défini par les autres applications. Alors on a quand même quelques petits outils, parce que c'est bien joli de dire que je peux prendre un template HTML, je le mets dans mon thème et puis ça marche. Mais ça serait bien d'avoir finalement quelque chose qui ressemble. Donc on va avoir les commandes collect static pour récupérer tous les fichiers statiques, donc CSS, JavaScript notamment. Et collect templates qui va être tous les fichiers HTML. Et ça va nous permettre juste de prendre ce fichier HTML-là et de le modifier. Alors, aussi une petite chose, ça c'est une astuce à prendre en compte, c'est il existe un module qui s'appelle Django Compressor. Alors, ce truc-là, il va nous permettre à la fois de minifier le CSS, mais surtout, il faut savoir que Bootstrap, à la place, à la base, il est écrit en CSS, pardon. LessCSS, c'est un langage qui se compile en CSS. Alors, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir définir des variables, les réappeler, et donc on va pouvoir ainsi faire son propre. Enfin, on va pouvoir faciliter son écriture de CSS. Et surtout, ces variables, on va pouvoir les réutiliser. C'est-à-dire que quand on va définir une couleur de fond, cette couleur de fond, on va, ben, au lieu de la réécrire à chaque fois, ben, on va appeler la variable. Ce qui est quand même plus pratique que de devoir à chaque fois rechanger la couleur de fond partout où on l'a fait, si on a besoin de le mettre plusieurs fois. Enfin, la personnalisation, on va bientôt en finir avec. Dans un fichier HTML, donc si je viens reprendre ici, ça sera notre template. Ça. Voilà, on a ici dans un fichier HTML, bon celui-là il est un peu compliqué parce que c'est la base, donc évidemment vous les fichiers que vous allez réécrire, ils seront beaucoup plus simples. Puisque vous avez un système de blocs, ce mot-clé bloc et endblock, ça va nous permettre de rajouter des choses dans notre template HTML. C'est-à-dire que ce fichier-là, c'est la base, et bien on n'a pas à le réécrire à chaque fois, on va dire on va hériter de ce fichier-là. Et donc quand on va hériter de ce fichier-là, ben, tout ce qui est là, on va le sauter et on va juste remettre nos blocs. Et les blocs qu'on va redéfinir dans ce qu'on aura hérité va remplacer finalement les blocs de ce fichier-là. Et donc ainsi, on va reconstruire un fichier HTML, non pas de zéro, mais en modifiant juste les éléments qui nous intéressent. Et donc, bien sûr, alors c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, il faut être un petit peu développeur, il faut vraiment mettre les mains dedans. Mais finalement, c'est un système qui est à la fois propre et extrêmement puissant pour personnaliser. C'est-à-dire que là, on a réussi à pouvoir modifier soi-même des fichiers HTML, à modifier l'affichage pour arriver à un résultat. Donc, pour comparer quand même avec du WordPress, par exemple. En WordPress, qui est donc en PHP, on va être obligé de créer des fonctions avec des noms très spécifiques pour pouvoir recréer complètement le fichier de HTML. Et donc, on va se retrouver dans des situations qui sont extrêmement compliquées et qui vont être beaucoup plus lourdes à mettre en place. Et donc, finalement, Mezzanine va nous faire gagner énormément de temps en partant d'une base saine. Donc, là, on en a fini avec la partie vraiment mezzanine, vraiment un petit peu difficile de cette conférence. Est-ce que vous avez déjà des questions sur mezzanine? Pas de questions? Si. Oui? Donc je vais répéter la question, ça sera plus simple. La question était, est-il possible de limiter l'envoi de fichiers entre 11 et 100 mégaoctets? Ah, d'autoriser, pardon. Donc d'autoriser l'envoi de fichiers entre 11 et 100 mégaoctets. C'est-à-dire? Ah, il y a des limites. Voilà, donc c'est vraiment la question, c'est vraiment d'autoriser les fichiers et d'afficher la limite. Voilà. Alors, les limites d'envoi de fichiers, il faut savoir que ça n'est absolument pas géré par le code d'un site web. C'est quelque chose qui est géré par le serveur web lui-même. Et il y a une grande différence, en fait, enfin dans la structure. On a un serveur web qui finalement va recevoir les requêtes et va rendre un résultat. Et ce serveur web, initialement, au tout début de l'Internet, il envoyait des fichiers HTML statiques. Et c'est vrai qu'on a gardé un petit peu cette mesure-là. Sauf que cette partie statique, on l'a finalement remplacée par un générateur de fichiers HTML. Et Mezzanine est donc ce générateur de fichiers HTML. Et finalement, c'est le serveur web qui va faire du coup l'interface entre le navigateur web et Mezzanine qui va s'occuper des limitations. Et donc Mezzanine ne pourra pas interagir là-dessus. Donc ça sera au final à l'administrateur système du serveur de gérer cette limite.
Bonjour. Par rapport à un concurrent simple comme Django CMS, le sujet qu'on est en train d'aborder, ça pourrait être quoi les gains d'un Mezzanine?
Alors, les gains de Mezzanine, c'est un peu difficile de parler de gains. Django CMS, c'est vraiment un CMS qui permet de faire des pages qui sont dans un menu. Mezzanine, c'est un système de blog. Donc, Mezzanine va afficher finalement une liste d'articles avec les articles dans l'ordre chronologique inverse, comme le fait un WordPress. Après Django CMS, c'est vrai que les développements sont finalement assez lents par rapport à Mezzanine. Il y a quand même une communauté qui est aujourd'hui plus forte. Et en plus, pas mal de petits outils qui ont été mis. Tout à l'heure, je vous ai parlé de surcharger. En Django CMS, en fait, on va utiliser les outils classiques de Django. En Mezzanine, on va avoir une option qui va s'appeler Overextend plutôt que Extend. Et Overextend, il va permettre d'hériter d'un fichier du même nom. C'est-à-dire que là, il y avait un base.html, par exemple, que j'ai ouvert. Dans Django CMS, on aurait voulu faire un fichier intermédiaire qui hérite de base.html. On aurait dû l'appeler autrement. Dans Mezzanine, on va lui mettre le même nom. On va mettre Overextend. Et à partir de là, il va chercher dans les apps moins prioritaires quelle est la première qui va avoir un base.html et on va hériter de celui-là. Donc ça nous permet de faire ce type d'héritage. C'est vraiment des petits outils qui sont en plus. On passe à la suite. Donc on va parler déjà des principes généraux de l'accessibilité. Alors l'accessibilité, c'est permettre à tous les utilisateurs d'utiliser un logiciel. C'est aussi l'origine du nom de l'association Liberté Zéro, puisque la Liberté Zéro dans le logiciel libre, c'est celle d'exécuter le logiciel. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que finalement, un handicapé qui, par exemple, ne va pas entendre, est libre d'écouter la radio? Effectivement, il peut allumer la radio, mais il n'entendra pas. L'accessibilité aussi, c'est une obligation légale de non-discrimination. Il y a des textes là-dessus, à la fois pour l'administration française sur l'accessibilité des services publics, mais également dans le code pénal pour tous, donc particuliers, entreprises. Dès lors qu'on va faire quelque chose, il faut que ce soit accessible, dès lors que ça demande des efforts raisonnables. Et puis l'accessibilité, c'est souvent juste de toutes petites actions faciles à mettre en place. Finalement, l'accessibilité, ce n'est pas grand-chose et on va s'en rendre compte par la suite. Par contre, l'accessibilité, si on ne l'a pas prévu au départ, si on n'a pas fait ces toutes petites actions tout au long du développement, c'est quelque chose qui va être très difficile et très long. Et là-dessus, je vais vous renvoyer un petit peu sur une conférence qui a eu lieu hier. Donc la vidéo sera en ligne d'ici peu. Ça a été l'étude du cas Framadet, qui est donc un outil de Framasoft dans le cadre dégoogliser finalement Internet, où c'est un outil de sondage de date. Et ils avaient fait une première version qui fonctionnait, mais qui n'était pas accessible. Et il leur a fallu un travail de très longue haleine, finalement, pour atteindre une nouvelle version qui est accessible. Alors, on va parler un petit peu d'handicap, puisque l'handicap, c'est quelque chose d'un peu complexe. Et finalement, l'handicap, ça ne se limite pas à une seule chose. Donc, pour bien comprendre, nous avons une perception sensorielle, quand on va toucher, quand on va voir ou autre. Et cette perception sensorielle, elle va aller dans le cerveau, dans le cognitif. Et du cognitif, on va apporter une réponse motrice. Donc là, ça va être les muscles. Et du fait qu'on ait trois éléments comme ça, on peut avoir une défaillance sur chacun des trois éléments. On va avoir l'handicap sensoriel sur les sens qui vont venir. On va avoir l'handicap mental ou l'handicap cognitif. L'handicap moteur. Et pour ne pas arranger les choses, on peut avoir un handicap viscéral qui va entraîner un handicap dans une ou plusieurs des trois catégories décrites au-dessus. Donc un handicap viscéral, c'est quand il y a quelque chose, un organe qui ne fonctionne plus dans le corps ou qui fonctionne mal. Et donc on va s'attaquer un petit peu sur les sens. Alors un sens, enfin dans le sens perception, c'est composé de récepteurs ou cellules sensitives. Donc c'est ce qui va finalement capter. Et c'est quelque chose qui va transmettre les informations au système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau. Alors l'homme a plusieurs sens. Est-ce que vous êtes capable de les citer? C'est pas très actif. Donc la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, en fait, ces cinq sens, c'est les sens qui avaient été définis par un philosophe grec. Et la science aujourd'hui, elle en rajoute. La thermoception, c'est pas le toucher. On capte les températures par des récepteurs qui sont propres. La nociception, c'est-à-dire la douleur. Parce que c'est vrai que la douleur, on l'associe initialement au toucher, mais est-ce qu'on se touche le ventre quand on a mal au ventre? Ce sont des capteurs qui sont propres. L'équilibrioception, parce qu'on a quand même tout un espèce de gyroscope dans l'oreille interne. Et on a la proprioception. Donc la proprioception, c'est un concept un peu vague. En fait, c'est on a dans nos terminaisons nerveuses la possibilité de savoir où sont nos membres. Et donc, sur chacun des sens, on peut avoir une défaillance. Donc la proprioception, par exemple, je vous ai expliqué que c'est savoir où sont ses membres. Il y a des gens, s'ils ne regardent pas, quand ils vont applaudir, ils vont faire ça. Et ils sont obligés de regarder leurs mains pour bien applaudir. C'est quelque chose qui existe et c'est pour ça qu'on sait que c'est un sens qui existe. Et en accessibilité des logiciels, évidemment, on ne va pas toutes les regarder, il y en a juste quelques-unes qui nous intéressent, ça sera les visuels, auditifs et tactiles principalement. Sauf cas particuliers, notamment dans le médical. Mais il faut savoir aussi qu'une personne peut avoir plusieurs atteintes. On n'est pas obligé de n'avoir qu'un problème visuel ou qu'un problème auditif, on peut avoir les deux en même temps. Donc par exemple le syndrome d'Usher qui est une dégénérescence neurologique qui s'attaque à la fois au nerf optique et au nerf auditif. Donc c'est des personnes à l'âge de 5-6 ans souris aveugles. Et donc tout ça, il va falloir pouvoir le traiter aussi. Alors, on a vu tout à l'heure aussi qu'on avait le cerveau qui rentrait en jeu dans nos actions. Et là, on a l'handicap mental. Et l'handicap mental, en termes d'accessibilité, c'est le pire. Parce que autant un handicap moteur, on va donner un dispositif. Un handicap sensoriel, on va utiliser un autre sens. L'handicap mental, il y en a beaucoup. Et vraiment beaucoup. Et là, la collaboration avec un psychologue est obligatoire. Vous ne pourrez jamais réussir à faire un site accessible un handicapé mental sans passer par la case psychologue. Alors, bien sûr, ça paraît lourd, mais tout va dépendre de ce que vous proposez. Si vous faites un blog de particulier, l'handicap mental, on va pouvoir l'éviter parce qu'on parle quand même. Enfin, l'accessibilité, c'est dès lors qu'on a un effort raisonnable à faire. L'handicap mental, ça va demander un effort très lourd. Une administration publique va être obligée d'être accessible à l'handicap mental. Et bien sûr, il est utopique de convenir à toutes les formes de ce handicap. N'essayez pas, c'est pas la peine. Tout simplement parce que on a un cerveau qui est très complexe et donc qui fonctionne un petit peu en module. On va avoir par exemple la résolution de problèmes. Si celle-là est défaillante, ça va être compliqué de donner une énigme, sachant qu'une énigme, ça peut être juste une navigation dans un menu. La mémoire peut défaillir aussi. Donc évidemment, on peut parler d'Alzheimer par exemple. Mais on peut avoir des personnes qui ne vont pas se souvenir de quel bouton a été cliqué 2 secondes auparavant. Les sentiments. Alors ça, les sentiments, c'est très important. On n'y pense pas forcément, mais les sentiments, c'est ce qui va permettre de prendre des décisions. Autant un ordinateur va calculer de façon mathématique. Le cerveau va utiliser le sentiment qui lui convient le mieux dans une situation donnée. Et c'est ça qui va permettre de prendre une décision. Donc si le sentiment n'est pas là, enfin si on a une défaillance sentimentale, et sur tout ce qui est émotion, on va se retrouver avec des gens qui vont être incapables de naviguer sur Internet. Et la socialisation qui ne nous concerne pas trop en informatique, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et l'handicap moteur, bon, c'est le plus connu. Bon, bien sûr, plusieurs membres peuvent être atteints. Mais surtout, c'est une prise en charge par du matériel adapté. Et finalement, c'est quelque chose qui, finalement, dans un site web, ça va être juste de s'assurer qu'on a une navigation au clavier ou qu'on peut utiliser une saisie de texte virtuelle. Alors, Mezzanine, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très accessible. Même si le site web ne s'en vante pas, mais au quotidien, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on est quand même sur quelque chose qui marche. Par contre, on a un problème avec Bootstrap, c'est que les couleurs par défaut de Bootstrap ne sont pas assez contrastées. Donc la première des choses à faire quand on va utiliser Mezzanine, ça va être de redéfinir les couleurs et de s'assurer qu'on ait un contraste suffisant. Et finalement, le plus difficile dans Mezzanine, ça va être de rajouter toujours un commentaire alternatif dès lors qu'on va rajouter une image dans notre article de blog. Alors on a un éditeur WYSIWYG. Quand on va rajouter une image, dans les propriétés de l'image, on peut saisir un petit commentaire. Il faut le saisir. Alors après, pour vous aider, il existe quelques normes sur l'accessibilité. WCAG par le W3C et RG2A qui est une norme française. Dont une nouvelle version va sortir bientôt, qui ne sont pas une contrainte, mais surtout un guide. Il ne faut vraiment pas voir ces normes-là comme un cadre rigide. J'aurais même tendance à dire que certaines fois, si ça vous demande trop d'efforts de respecter une contrainte, et selon votre public, ben, tant pis. Je veux dire par là, si on fait une page web pour un chirurgien, pour l'aider à faire une opération, il n'y a que le chirurgien qui utilisera cette page web-là. Ça ne sert à rien de faire une page web accessible à un aveugle. Un chirurgien ne sera jamais aveugle ou sinon il change de métier. Alors l'accessibilité, ça demande des efforts aussi sur la forme et le contenu. C'est-à-dire que les données doivent être correctement structurées. Enfin, le contenu lui-même. C'est à vous de faire en sorte que une liste soit cohérente, que un tableau soit cohérent. Ça veut dire aussi que dès lors que vous faites un module spécifique pour Mezzanine, il faut bien faire attention d'utiliser les attributs. Et notamment, il y a un attribut qui s'appelle fort, qui permet derrière d'associer un label à une zone d'édition. Et finalement, quand on va être dans la zone d'édition, si on a une synthèse vocale, la zone d'édition, au lieu d'entendre éditer texte, on entendra le titre de ce champ. Évidemment, ce n'est pas de mise en page en table. C'est quelque chose qui, de toute façon, en HTML est un peu interdit. Et faire attention à l'ordre des éléments. C'est-à-dire que sous Mezzanine, on a déjà un menu qui est relativement court, qui est souvent dit en premier. Si maintenant on rajoute un pavé de texte qui est dit à chaque page, ça va être ingérable. Et dans l'ensemble, en fait, Là, vraiment, pour être accessible, il faut vraiment penser simple. Dès lors qu'on est simple, bien pensé, bien structuré, on va être plus accessible. On a aussi un problème avec les couleurs. Alors, les couleurs, il y a tout un tas de maladies qui existent sur les yeux. Alors, bien sûr, non, les maladies sur les yeux, on pense souvent aux aveugles, mais il y a beaucoup de malvoyants. Des malvoyants qui vont avoir voir des choses floues, des malvoyants qui vont avoir des problèmes avec la lumière, et des malvoyants qui vont avoir des problèmes avec les couleurs. Et il faut savoir que 8% des hommes sont daltoniens. C'est-à-dire que 8% des hommes ne voient pas les bonnes couleurs. Ce chiffre est énorme. Mais ça veut aussi dire que quelqu'un va être potentiellement capable de confondre deux couleurs. Alors, si on commence à identifier les choses uniquement par des couleurs, notamment dans les articles avec l'éditeur WYSIWYG, on peut modifier les couleurs. Il faut bien penser qu'entre le vert et le rouge, pour certains, il n'y a pas trop de différence. Et bien sûr, il faut vérifier les contrastes. Donc ça, il y a des petits outils automatiques. Si vous faites des recherches sur les plugins existants sur Firefox avec le terme accessibility, vous allez voir plein de choses, notamment sur les contrastes. Et après, l'accessibilité, ben, il faut la tester. C'est un sujet qui est vraiment transversal. Donc dès lors, si vous faites un blog qui est plutôt un blog d'entreprise, de toute façon, quand on utilise Mezzanine, c'est souvent dans un milieu professionnel d'ailleurs. Il faut vraiment que toute la chaîne du projet soit sensibilisée. Si vous faites un blog de particulier et que vous avez plusieurs participants, il faut que chaque participant soit sensibilisé. Parce que finalement, c'est une action au quotidien de chacun. Mettre le halt dans les images et autres, c'est quelque chose qui est indispensable. Et donc, du coup, il faut toujours mettre en place des procédures de test pour l'accessibilité. Si vous faites du test dans vos développements, vous faites du test pour l'accessibilité. Et ça veut dire que ben, on doit être capable de naviguer au clavier ou au clavier ou saisir du texte avec le clavier virtuel. Pourquoi? Parce que ben, dès lors qu'on est ben, par exemple aveugle, ben, on va utiliser des petits outils. Ben, on ne va pas utiliser forcément un clavier et puis l'écran, on n'en a pas. Donc on utilise des outils comme celui-ci. Donc ça, vous avez ici un petit affichage en braille et vous avez des boutons pour saisir en braille. Donc bien sûr, sur l'ordinateur, ça apparaît en caractères normaux, mais il n'y a absolument aucun moyen de faire une souris avec ça. Et même si vous fermez les yeux, vous verrez que vous ne pourrez pas naviguer à la souris, c'est juste impossible de rechercher un bouton. Donc on fait tout au clavier. Il faut donc que votre site soit accessible au clavier. De même, quelqu'un qui va avoir un handicap moteur, par exemple, et qui ne peut pas utiliser ses bras. C'est le cas de beaucoup de, enfin, c'est le cas des tétraplégiques. Eux, ils vont utiliser une reconnaissance vocale. Et cette reconnaissance vocale, elle va pas envoyer les événements clavier. Elle va juste modifier la zone de texte. Et donc, si vous commencez à capter les éléments clavier pour une zone de texte, ça ne marchera plus. Sauf pour quelques trucs spéciaux, typiquement touche entrée. Quand on est dans une reconnaissance vocale, on dit touche entrée et ça fait la touche entrée. Si maintenant vous voulez faire des touches, enfin faire une saisie normale, enfin avec des événements clavier, la personne devra dire touche A, touche B, touche C, touche D et devra épeler comme ça. Ce qui est ingérable. Si vous souhaitez vraiment tester pour les aveugles, il faut savoir qu'il existe un outil sous Linux qui est installé quasiment, enfin par défaut dans quasiment toutes les distributions. C'est BRLTTY. C'est en fait le terminal braille. C'est le retour braille. Et donc du coup avec lui, dès lors que vous l'utilisez avec un outil qui s'appelle Orca, qui est le lecteur d'écran, vous allez avoir le retour braille de ce que voit réellement un aveugle. Et il existe un driver qui est le driver finalement qui va ne faire qu'afficher le texte à l'écran. Alors, des choses à ne pas faire. Il faut savoir que les outils d'accessibilité aujourd'hui sont des choses performantes. Et donc, à partir de là, si on commence à empêcher leur fonctionnement, c'est une très mauvaise idée. Et il y a encore une idée encore plus mauvaise, c'est d'empêcher leur fonctionnement pour recréer les siens. Parce que ces outils d'accessibilité, ils ont quand même été vus par des professionnels, par des équipes complètes. Si vous commencez à vouloir désactiver les outils d'accessibilité de la personne et mettre les vôtres, ça va être beaucoup moins efficace. Il faut, je vais prendre un exemple où là, ça n'a pas recréé, où, enfin, il n'y a pas eu de nouvel outil qui a été recréé, mais c'est par exemple Tisséo. Tisséo, ils ont mis en place tout un système pour expliquer aux aveugles comment se déplacer dans les stations de métro. Et donc pour ça, ils ont eu l'excellente idée d'utiliser une synthèse vocale. Jusque-là, tout va bien. Mais pour la synthèse vocale, ben, ils ont décidé de prendre le résultat de la synthèse vocale et de le mettre sur le site internet. Et on ne peut pas accélérer la lecture. Sauf que quand on a l'habitude d'une synthèse vocale, la synthèse vocale, on va la mettre à fond au niveau vitesse. Et là, du coup, pour avoir la description d'une station de métro, ben, ça prend entre 15 minutes et 1 heure. Alors qu'on aurait eu du texte pour naviguer, ça aurait été beaucoup plus simple. Puis surtout, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est le retour utilisateur. Parce que les normes qu'on a, ce sont des cadres qui sont très utiles, mais qui sont trop génériques et qui du coup ne vont pas regarder tous les cas. Et puis aussi, l'accessibilité, c'est quelque chose qui touche à l'humain, c'est-à-dire un truc qui n'est pas exact. L'humain, chacun a ses caractéristiques propres. D'ailleurs, la médecine elle-même n'est pas une science exacte, puisqu'elle dépend des individus et finalement d'un organisme qui est unique. Et du coup, il faut vraiment écouter ses utilisateurs et répondre à leurs besoins. Donc, il y a plein de méthodologies qui existent pour l'analyse des besoins, pour avoir, pour faire des questionnaires, avoir leur retour. C'est le travail d'ergonome, d'audit en accessibilité et autres. C'est quelque chose qui est très lourd. Si vous avez un blog particulier, ne serait-ce enfin, un blog de particulier, ne serait-ce que de mettre une zone, enfin un contact, et dire aux gens, bah, si vous avez un problème, dites-le moi, je vais voir ce que je peux faire. C'est déjà un pas énorme dans l'accessibilité. Il y a une petite chose aussi à éviter, c'est la redéfinition des comportements par défaut. C'est-à-dire que JavaScript, ben aujourd'hui avec l'Ajax, on va beaucoup changer le comportement d'un lien ou le comportement d'un bouton. Quand on clique sur un bouton, ben, au lieu d'envoyer la saisie sur l'adresse exacte et avoir le retour d'une nouvelle page HTML, ben en fait, on va avoir juste le retour de certaines données et on va mettre à jour une portion de la page. Donc c'est quelque chose qui marche très bien en JavaScript, quand on clique avec une souris. Mais il faut aussi redéfinir le comportement au clavier. C'est une des erreurs classiques en accessibilité. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Après, ce qu'il faut voir aussi, là, je vous ai parlé de beaucoup de choses, ça paraît peut-être quelque chose d'énorme, mais finalement, l'accessibilité, c'est aussi quelque chose qui est très bénéfique pour votre site internet ou votre blog. Ça va vous forcer à avoir finalement à synthétiser les informations, à faire en sorte que finalement la navigation soit plus simple. Et l'accessibilité, il ne faut vraiment pas la voir comme une contrainte, mais plutôt comme une aide, puisque dès lors que vous allez être accessible, vous allez forcément simplifier votre site web et vous allez améliorer la navigation pour tout le monde au final. Et voilà.